19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, il y a Aimé et Sophie. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Bonsoir.
Et bonsoir également à Pierre à la technique sur un nouveau studio en plus.
Bonsoir.
Allez, dans cette émission, nous accueillerons François et Joseph de l'association Baugé Solidarité Réfugiés. Puis nous parlerons de l'actualité, nous écouterons une chronique de l'antenne jeune d'Amnesty Angers et nous finirons bien sûr par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par l'édito et c'est toi Aimé, ce mois-ci, qui va nous parler des événements récents à Israël et en territoire palestinien occupé.
Effectivement, tout débute le samedi 7 octobre lorsque le Hamas lance l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Des pluies de roquettes, des fusillades de civils et des prises d'otages sèment alors la terreur en Israël.
Quelle a été la réaction d'Israël ?
L'armée israélienne réplique aussitôt, affrontant les terroristes jusqu'au lendemain matin. Face à cette offensive d'une ampleur inédite, des dizaines de milliers de réservistes israéliens sont mobilisés. Le lendemain, les Gazaouis se réveillent sous les bombes israéliennes. Alors que le Hamas refuse de libérer ses otages, le lundi 9 octobre, Tel Aviv annonce un siège total de l'enclave palestinienne. Israël coupe son approvisionnement en eau, en électricité, en gaz et en nourriture. Le vendredi 13 octobre, sur les ordres d'Israël, des milliers de civils prennent la route du sud de la bande de Gaza. L'ONU avertit précisant que l'évacuation de l'enclave palestinienne est impossible sans provoquer des conséquences humanitaires désastreuses. Selon le ministère de la Santé à Gaza, depuis le 7 octobre, plus de 1500 personnes ont été tuées et plus de 6600 blessées dans le cadre des attaques israéliennes à Gaza. Ce qu'on peut dire de ces chiffres, c'est que le nombre de victimes est probablement plus élevé, puisque des familles continuent de découvrir des corps sous les décombres. Pour ce qui est de l'attaque perpétrée par le Hamas, elle serait responsable de la mort de 1200 personnes et 3436 blessés, dont de nombreux civils, d'après les mêmes sources. Depuis, le bilan humain ne cesse de s'alourdir.
Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte dans lequel s'inscrivent ces événements ?
Bien sûr, c'est la guerre des six jours qui octroie à Israël en 1967 sa configuration territoriale actuelle. Israël occupe alors la bande de Gaza, la Cisjordanie et annexe Jérusalem-Est. Quand on parle du blocus de la bande de Gaza, ça fait référence au blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza avec l'appui de l'Égypte depuis 2007. Dans un rapport publié en février 2022, Amnesty International dénonce un système institutionnalisé d'oppression et de domination imposé aux Palestiniens partout où Israël détient le pouvoir sur l'exercice de leurs droits. Ce rapport met en avant la fragmentation territoriale, la ségrégation et le contrôle des Palestiniens citoyens d'Israël, leur dépossession des terres et des propriétés et la privation de leurs droits économiques et sociaux. Les autorités israéliennes ont ainsi continué à imposer aux populations palestiniennes un régime oppressif et discriminatoire, constituant un système d'apartheid, crime inscrit dans le droit international.
Alors, quelle est la position d'Amnesty International face à cette nouvelle vague de violence qui vient des deux côtés ?
Amnesty International dénonce de nombreuses violations des droits humains. Ce que nous demandons, c'est une désescalade de la violence, le respect du droit international, la protection des civils par les deux parties, l'arrêt des bombardements indiscriminés, l'arrêt des tirs de roquettes sur Israël et la libération des otages civils israéliens. Le siège total de Gaza peut être qualifié de punition collective à l'égard de l'ensemble de la population palestinienne. C'est donc un crime international. Amnesty demande à ce qu'il y soit mis un terme, tout comme au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans. Pour nous, à Amnesty, c'est essentiel que la communauté internationale dénonce avec la même vigueur et les crimes perpétrés par le Hamas et le siège total de Gaza par Israël. La communauté internationale et l'Union européenne doivent faire de la protection des civils et des besoins humanitaires une priorité.
Merci beaucoup, Aimé. Vous vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Joseph et François de l'association Baugé Solidarité Réfugiés. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et pourriez-vous nous présenter tout d'abord votre association ?
C'est une association qui est née en 2016 à la suite des événements de l'année précédente où, si vous vous rappelez, on avait retrouvé le petit Erilan, un petit Syrien noyé sur une plage. L'image avait ému le monde entier. Le président Hollande avait dit on va accueillir 30 000 réfugiés, on va les relocaliser. Le pape avait lancé un appel pour que chaque paroisse accueille une famille. Donc c'est un peu à la suite de tout ça que notre association a commencé.
Merci beaucoup. Alors, ça fait depuis tout ce temps, vous accueillez des familles sur Baugé, alors ?
Depuis 2016.
Uniquement des Syriens ou bien peut-être d'autres personnes ?
Alors, on a accueilli successivement quelques Syriens, effectivement. On a accueilli une famille géorgienne, une famille albanaise, donc famille, femme et enfant, et puis une camerounaise et des Guinéens. À l'heure actuelle, on accueille une seule famille guinéenne, un couple qui est arrivé en France il y a quelques années et qui a eu un petit garçon il y a 2 ans et une petite fille cette année. Donc on les accompagne jusqu'à ce qu'ils arrivent à être autonomes.
Et quand vous parlez d'accueil, qu'est-ce que ça regroupe ? Qu'est-ce que vous entendez par accueil exactement ?
Ben, l'accueil, c'est-à-dire leur donner les moyens de vivre correctement en France et de petit à petit pouvoir s'installer en France, être autonome. Donc ça veut dire au départ fournir un logement s'ils en ont pas, fournir des meubles, des vêtements s'ils en ont pas, les accompagner dans les démarches, payer des charges.
Oui, la scolarisation des enfants aussi. Et puis il y a des fois à les accompagner pour des problèmes de santé.
Ça veut dire aussi donner des cours de français aux parents s'il y a besoin ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi les cours de français quand il y en a besoin. Là, dans le cas des Guinéens, il n'y a pas eu beaucoup besoin. Il y a eu des cours de perfectionnement qui ont été donnés. Mais voilà.
Ça veut dire qu'il faut des sous. Vous faites des actions alors ou bien vous recevez des dons ? Comment ça se passe ?
Alors, les adhérents paient une petite cotisation. Par moment, on fait appel et il y a toujours des réponses. Et puis alors, on organise des séances théâtrales, des choses comme ça aussi. Et il y a également un bric-à-brac tous les samedis pendant le marché. Et ma foi, ça marche bien aussi. On récupère un peu d'argent comme ça. On a aussi une subvention de la mairie de Baugé.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations ?
Oui, on essaie. En fait, on essaie d'avoir un peu des partenariats. Donc, on a des relations avec l'association qui est la plus proche, qui est à La Flèche, SAE, Solidarité Accueil Exilé. Et puis, quelques associations sur Angers aussi. D'ailleurs, il n'y a pas bien longtemps, c'était le 7 octobre, il y a eu une journée départementale, vous en avez peut-être entendu parler, qui a eu lieu à Angers, à Saint-Barthélemy, qui regroupait les principales associations du département qui s'occupent de l'accueil des migrants.
Pour ce qui est de vos bénévoles, est-ce que vous avez besoin des besoins en termes de bénévoles ? Comment est-ce que vous fonctionnez à l'association ?
Depuis que j'y suis, depuis 2016, il y a eu beaucoup de renouvellement dans le conseil d'administration. C'est souvent ces gens-là qui accompagnent au quotidien les familles. Il y en a qui sont plus spécialisés dans les cours de français.
Et chaque fois qu'on accueille une famille, 2 administrateurs sont référents, donc suivent la famille quasiment au quotidien pour écouter leurs besoins, les aider. Il y a tout un travail d'accompagnement pour les démarches aussi de régularisation qui sont assez longues pour qu'ils aient l'autorisation de travailler, pour trouver un emploi, pour qu'ils connaissent leurs droits aussi en termes d'allocation familiale, d'allocation logement, etc.
Alors, toute votre belle association, là, elle représente combien de bénévoles ?
Alors, on a 70 adhérents, à peu près, hein, à jour de la cotisation pour cette année. Ça fluctue un petit peu selon les années. et puis une centaine à peu près de sympathisants. C'est-à-dire ils sont pas adhérents, mais en cas de besoin, ils sont là, soit pour s'il y a un coup de main à donner, soit pour donner de l'argent à l'association.
Alors nous, on vous a connu grâce à la chorale La Viva, que vous avez accueillie à Baugé. Or, La Viva, c'est une chorale qui nous tient à cœur, puisque ses premiers concerts, c'était autour des articles de la Déclaration des droits humains. Voilà, et c'est comme ça qu'on a fait votre connaissance. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde à cette soirée. Donc je suppose que votre association est bien connue et que vous êtes bien acceptée, je veux dire, et le fait d'accueillir des familles sur Baugé est quelque chose de maintenant accepté et que vous ressentez cette solidarité ou pas toujours peut-être ?
Si, je pense que localement on est assez bien accepté, assez connu quand même. Et effectivement, le concert c'est l'association de la chorale La Viva qui nous a proposé de faire le concert à Baugé et qui soit au profit de l'association Baugeois Solidarité Réfugiés. Donc, effectivement, ça participe à faire connaître notre association. Parfois, c'est une troupe de théâtre qui propose aussi une soirée théâtre au profit de l'association ou bien l'association Stella Ciné à Baugé qui propose des films régulièrement, qui propose aussi, si on veut bien, organiser une soirée avec un film sur la question des migrants qui peut être suivi d'un débat. Donc tout ça, ça contribue à nous faire connaître. Puis le journal local Ouest France, Courrier de l'Ouest, pardon. Je suis pas du pays, moi. Et... Donc, qui aussi rend compte de tout ce qu'on fait, hein, très régulièrement. Voilà, donc on est assez bien connus, oui.
J'ai jamais senti d'hostilité de la part des gens envers l'association, depuis le début.
Et aujourd'hui, alors, vous auriez besoin de quoi ?
On aurait besoin que le gouvernement assume ses responsabilités. Ça, c'est surtout ça, parce que c'est vraiment un casse-tête pour arriver à ce que des familles... Par exemple, là, la famille qui vient de Guinée, bon, ben, c'est un pays qui est pas particulièrement en conflit, comme ce qu'on voit en Palestine ou ce qu'il y a eu en Syrie, ce qu'il y a encore en Syrie d'ailleurs. Donc, les possibilités de régularisation, elles sont infimes. Il y a vraiment une très grande frilosité des pouvoirs publics, de la préfecture et autres pour la régularisation.
Et pourtant, ça se passe très bien. Une fois les familles arrivées dans les petits villages, les petites villes, tout se passe, enfin, je suppose. Voilà.
Ah oui, les familles qui viennent dans le Baugeois sont des familles qui ont envie de vivre en milieu rural. Et elles s'intègrent vraiment très bien. Leurs enfants suivent une scolarité généralement même plutôt assez brillante. Plutôt au-dessus de la moyenne, je crois, les enfants de Géorgie, d'Albanie, là, qui ont vécu et qui vivent encore dans le Baugeois, se sont très bien intégrés. Les parents trouvent du travail. Au bout d'un moment, ils sont autonomes, ils payent leur loyer et ils sont heureux.
Et si, en tant que particulier, on a envie de prêter main forte à votre association, de vous venir en aide, où est-ce qu'on peut vous contacter ?
Donc, c'est assez facile de nous contacter parce qu'on a une adresse mail qui est assez facile à retenir. Association BSR, comme Baugeois Solidarité Réfugiés, @gmail.com. Notre adresse, c'est mairie de Baugé, 4950, Baugé en Anjou.
Merci beaucoup, on se retrouve après une pause musicale.
Je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau. Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes. Si je pars, vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche s'il y a des Français. J'aime la France comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère? Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie, qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse pour être honnête. Bon, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où si venait la guerre? On oublie l'histoire. Fais l'histoire, la paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol, est-ce que c'est grave? Et il écrit « Vive la France » avec une faute d'orthographe.
Beaucoup de questions, peu de réponses, j'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales, tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical, tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein. L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre, mais les autres, c'est nous. Et paraît qu'il y a le feu à la chapelle, le pays de Jeanne d'Arc ou de Jamel. Paraît qu'être gris c'est notre fierté, qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, il y a les Gaulois, il y a les chevaliers. Mais dans la cuisine, il y a ma grand-mère et ses tatouages berbères effacés. Des fois je me dis, viens je me casse, je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir comme un lâche. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en pars, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle ma France et son terroir, même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on pourrait le faire, briser le plafond de verre. Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sons de Johnny, écouter les conseils des vieux, la Bretagne même s'il pleut, prendre plein de médicaments,
l'aspirine et le doliprane,
Omar Sy et Zidane,
dire que c'était mieux avant, la vie en rose d'Edith Piaf, les perles de pluie de Jacques Brel, faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel,
l'heure de l'apéro,
pas assumer la gueule de bois,
râler quand il fait trop chaud, et
râler quand il fait trop froid.
La France je l'aime, je veux encore d'elle. Français de la tête aux orteils, mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème. Sacré mélange, sacré cocktail, certains me disent qu'il est mortel, mais malgré tous les problèmes, je t'emmène
dans mon sacré bordel.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, vous venez d'écouter, c'était super bien, Sacré bordel, une chanson de Big Flo et Oli, pleine d'optimisme. Allez, il est temps maintenant de parler des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Un an après le début du soulèvement en Iran, le prix Nobel de la paix 2023 a été décerné le 6 octobre à Narges Mohammadi, fervente défenseur des droits humains en Iran. Un symbole d'autant plus fort que la militante iranienne est emprisonnée de nouveau depuis 2021 dans une prison à Téhéran. Emprisonnée pour son combat indéfectible pour la liberté et les droits des femmes, même depuis sa cellule en prison, elle soutenait le soulèvement iranien, déclenché à la suite de la mort de Mahsa Jinni Amini. Narges Mohammadi a été récompensée pour son combat entre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous.
La Pologne a la loi sur l'avortement parmi les plus restrictives d'Europe. L'interdiction quasi totale de l'avortement dans le pays met en danger des milliers de personnes chaque année. C'est pourquoi Justyna Wydrzyńska continue de militer pour ce droit. Elle est cofondatrice du collectif Abortion Dream Team et fournit des informations médicales aux personnes souhaitant avorter et défend le droit à un avortement sûr et légal. En mars 2023, Justyna a été reconnue coupable pour aide à l'avortement et a été condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt général. Pourtant, Justina doit pouvoir mener son travail sans persécution ni répression. L'accès à l'avortement est un droit humain et personne ne devrait être puni pour avoir protégé ce droit.
Le 11 octobre, le Conseil d'État français a reconnu l'existence d'une pratique discriminatoire des contrôles d'identité. Eh oui. Cependant, il a décidé de ne pas ordonner à l'État de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Avec les 5 autres associations requérantes, Amnesty regrette profondément que le Conseil d'État se soit déclaré impuissant à enjoindre à l'État de mettre un terme à cette pratique illégale. Cet arrêt est particulièrement douloureux pour des milliers de personnes qui font l'objet de contrôles d'identité abusifs au quotidien, avec leur lot de violences et d'humiliations. Les personnes concernées espéraient pouvoir compter sur la justice et le droit pour qu'enfin l'État français respecte son obligation en vertu du droit international des droits humains de garantir le respect du principe de non-discrimination.
Dans un tout nouveau rapport, Amnesty dénonce la menace mondiale du logiciel espion Predator. Pourtant réglementé par l'Union européenne, Predator appartient à la famille des logiciels espions hautement intrusifs. Cela signifie qu'il dispose à l'insu de l'utilisateur d'un accès total au micro, à la caméra de l'appareil infecté, ainsi qu'à toutes les données qu'il contient, comme les contacts, les messages, les photos ou encore les vidéos. En un seul clic, des personnalités politiques, des responsables intergouvernementaux, des journalistes et tout autre membre de la société civile peuvent être touchés. Pour mettre au pas ce commerce aussi opaque que fructueux, Amnesty a 2 demandes. D'abord, la mise en place d'un moratoire sur la vente, le transfert, l'exportation et l'utilisation de logiciels espions jusqu'à ce qu'un cadre respectueux des droits humains soit mis en place. Et deuxièmement, l'interdiction des logiciels espions les plus intrusifs.
C'est une première attendue depuis longtemps, le retour à la pratique des auditions publiques portant sur les ventes d'armes de la France. Nous saluons également la création d'une nouvelle commission parlementaire qui aura en charge l'évaluation de la politique du gouvernement en matière d'exportation de matériel de guerre ainsi que d'exportation et de transfert des biens à double usage. Pour rappel, les biens à double usage sont des biens sensibles, dans la plupart des cas, destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires. Pour autant, il reste beaucoup à faire afin de permettre un débat public éclairé sur le contrôle à l'exportation d'armement.
Partons maintenant au Mozambique où le 11 octobre dernier, des élections municipales se sont déroulées dans 65 communes. À la suite des manifestations pacifiques et des célébrations de victoire, la police a répondu par la violence en ciblant les bastions de l'opposition. Au cours de ces répressions, un adolescent de 16 ans a été tué. De plus, des centaines de sympathisants du RENAMO, le principal parti d'opposition, ont été arrêtés arbitrairement. Au Mozambique, il arrive régulièrement que des policiers tuent, blessent et arrêtent des manifestants en ayant recours à une force excessive et injustifiée. Les autorités doivent ouvrir immédiatement une enquête approfondie et impartiale en veillant à ce que les responsables présumés soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables.
La peine de mort est résolument en recul et des mesures concrètes sont prises partout dans le monde pour mettre fin à ce châtiment cruel et inhumain. Aujourd'hui, 112 pays ont aboli la peine de mort. Si l'on y ajoute ceux qui ont aboli ce châtiment dans la pratique et non en droit, ce sont plus des 2/3 du globe qui n'y recourent plus. Vous pouvez agir à nos côtés en allant sur notre site pour signer la pétition en faveur de Rocky Myers. Cet homme noir et en situation de handicap mental est condamné à mort. Son cas est emblématique de toutes les failles existant dans l'application de la peine de mort aux États-Unis. Exigez avec nous l'annulation de sa sentence.
Et nous allons écouter maintenant la chronique de l'antenne jeune d'Amnesty Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique jeunesse. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui malgré toutes ces actualités peu réjouissantes. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'actualités à la fois locales et internationales. Tout d'abord, en tant que coprésidente de l'antenne jeune Amnesty à Angers, j'aimerais vous faire part de nos quelques événements et projets à venir très rapidement. Puisque toute l'équipe est super motivée en ce début d'année scolaire pour impliquer les jeunes dans la lutte pour l'extension des droits humains dans le monde. Et afin de nous faire plus amplement connaître et d'exposer nos projets à venir, nous organisons une soirée d'inauguration à la loge 6 rue Claveau à Angers le 23 octobre prochain. Nous espérons donc vous y voir nombreux. De plus, nous sommes en train d'organiser un concours d'éloquence sur les droits humains avec l'association Angéloquence, basée à l'Université catholique de l'Ouest, qui se déroulera le 9 novembre prochain. Nous vous en parlerons plus amplement dès que nous aurons toutes les informations relatives aux horaires et à l'endroit. Il me paraissait ensuite impensable de faire une chronique aujourd'hui sans parler des injustices immenses commises à l'encontre des civils sur les territoires israélo-palestiniens. Nous allons plus précisément parler des conséquences de ce conflit sur les enfants et adolescents que la communauté internationale semble oublier, puisque en réalité cette catégorie de la population est l'une des plus vulnérables, alors que l'on a tendance à ne plus faire la distinction entre les enfants et le reste de la population lors de grands conflits. Ceux-ci passent inaperçus dans le débat public et on les considère comme de simples chiffres noyés dans le flot des milliers d'autres victimes. Cependant, les enfants jouissent d'un statut spécifique dans le droit international grâce à la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 qui leur accorde une protection spéciale et garantit leur accès, par exemple, à l'éducation et à la santé. Il est tout particulièrement important de protéger la jeunesse puisque c'est elle qui constituera le monde de demain. Les enfants sont les premières victimes de l'escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens selon l'ONG Save the Children. En effet, les écoles et les hôpitaux sont fréquemment touchés par les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Des attentats et massacres dans des écoles et bus scolaires ont été perpétrés par des terroristes palestiniens à Jérusalem en 2001, 2008 et 2011, pour citer les plus récents. Des centaines de mineurs sont détenus en prison par les autorités israéliennes. Donc ça, ce sont certains exemples, mais on voit que dans les deux cas, les exactions sont nombreuses. De plus, les enfants sont souvent utilisés soit comme boucliers humains lors des conflits entre le Hamas et l'armée israélienne, donc le Tzahal, soit comme objets médiatiques, par exemple lors des deux intifadas qui ont eu lieu entre 1988 et 2000, durant lesquels les enfants se confrontaient à l'armée israélienne avec comme seule arme des pierres et des bris. Et certains enfants sont même recrutés comme soldats par les deux camps. Cette utilisation à des buts politiques des jeunes sont intolérables au regard du droit international. La colonisation de la Cisjordanie par Israël a également amené des familles entières à se séparer ou à immigrer de manière forcée, qui constituent évidemment des événements troublants pour les mineurs. Enfin, ces violences et abus ont des conséquences graves sur le long terme, avec des troubles post-traumatiques importants. Leur vie affective et professionnelle en sera fortement affectée, et certains jeunes sans repère finissent même par se laisser bercer par des discours terroristes qui amènent à de véritables catastrophes.
Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le collectif Ouest Angevin pour l'accueil des migrants organise le mardi 21 novembre une soirée film-débat autour du film Exilé de Lila Berdugo avec la présence de Samuel Delépine.
Deux jours avant la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le film L'amour et les forêts de Valérie Donzelli sera projeté le 23 novembre au cinéma Les 400 coups à Angers et suivi d'un temps d'échange avec le public. C'est organisé par Solidarité Femmes 49 en collaboration avec le Planning Familial et le CIDFF.
Le même jour, soirée du groupement des éducateurs sans frontières, le GREF, avec la compagnie Éoliarp. La nuit promet d'être belle. C'est un hommage à Higelin à 20h30 à la MPT Mon Plaisir. Alors n'oubliez pas aussi le 25 novembre, il y aura très certainement des manifestations pour la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. On n'a pas encore le programme, mais guettez-le.
La Société des lectrices et lecteurs de l'humanité propose une rencontre intitulée « Migrants, étrangers et nos frères pourtant ». Rendez-vous le samedi 9 décembre dans la salle Pelloutier à la Bourse du Travail à Angers à partir de 14h au programme Expo, conférences, débats, témoignages et chansons sûrement.
Il Il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier François et Joseph pour leur venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
À la prochaine.
Bonne soirée.